Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et à la une donc cette révélation qui tombe au plus mal pour Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation était à Ibiza au moment de dévoiler le nouveau protocole sanitaire dans les écoles.
L'opposition réclame sa démission, les enseignants sont choqués alors qu'une nouvelle journée de grève se prépare cette semaine. Dans ce journal également des premiers signes d'un recul de l'épidémie à l'hôpital de la Timone à Marseille. Deuxième journée de recherche dans le Tarn sur les traces de Delphine Jubilard. La contre-attaque d'Éric Zemmour, à nouveau condamné pour provocation à la haine. Et puis, le carton plein des handballeurs français victorieux hier soir 29-25 face à la Serbie.
La politique, Olivier Bost.
C'est pas leur intérêt électoral, mais Marine Le Pen et Éric Zemmour se tapent dessus, c'est plus fort qu'eux.
On vous retrouve dès la fin du journal.
RTL Matin.
Pour parler du ministre de l'Éducation nationale, ce matin, on pourrait citer Molière. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Déjà très critiqué sur la valse des protocoles sanitaires, dans les écoles, les collèges, les lycées. Mediapart révèle que Jean-Michel Blanquer, au moment de dévoiler les nouvelles consignes, était en vacances à Ibiza, à la veille de la rentrée scolaire. Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
C'est une image qui égratigne un ministre déjà très fragilisé au sein du gouvernement.
Oui, imaginez Jean-Michel Blanquer les pieds dans l'eau, au cœur de la Méditerranée, alors que des centaines de milliers d'enseignants attendent impatiemment le nouveau protocole sanitaire à l'école. Voilà pourquoi ces révélations de Mediapart font l'effet d'une bombe. Il y avait déjà eu la polémique autour de ces nouvelles consignes publiées dans la presse un dimanche soir sur un site payant, puis ce protocole modifié à plusieurs reprises face à la grogne des syndicats. Non, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces révélations tombent mal. Je vais peut-être songer à prendre quelques jours de vacances, sourit lui aussi un conseiller du ministre.
Et alors justement, du côté de la rue Grenelle, on prend la défense du ministre. Alors certes, il était en vacances et en même temps, il était au travail.
Oui, il a simplement travaillé à distance, nous explique son cabinet hier soir. Cela n'a rien d'extraordinaire et pour preuve, ils nous ont même raconté en détail le programme des vacances à Ibiza du ministre. Une réunion le 31 décembre avec Jean Castex, une très longue soirée de discussion avec son équipe le 1er janvier, le tout à plus de 1000 km de distance, oui, mais s'il avait été là, le protocole sanitaire ne serait pas sorti plus tôt, élu de son entourage. Et puis, il avait bien le droit de partir, la consigne du gouvernement est claire, des vacances, oui, mais à moins de 2 heures en avion, nous explique un conseiller. Après tout, Ibiza, c'est tout pile 2 heures.
Les explications de Thomas Després du service politique de RTL. L'opposition réclame la démission de Jean-Michel Blanquer. C'est notamment le cas de Yannick Jadot, le candidat des écologistes. Du côté des Républicains, le porte-parole de Valérie Pécresse réclame des explications au ministre.
Et à 7h45, réaction de Guillaume Pelletier, nouveau porte-parole d'Éric Zemmour, avec Alba Ventura. Et puis je vous rappelle que ce sera l'objet de notre débat France 2022. Blanquer à Ibiza, autour de Benjamin Sportouche, Olivier Bost et Isabelle Choquet.
Et dans ce contexte, plusieurs syndicats d'enseignants et fédérations de parents d'élèves lancent un nouvel appel à la grève jeudi prochain pour dénoncer, je cite, le chaos engendré par la gestion de la crise sanitaire dans les écoles, les collèges et les lycées.
7h03, sur le front de l'épidémie, difficile de dire si l'on a franchi ou pas le pic de la cinquième vague. En tout cas, la France vient de franchir la barre des 100 000 morts à l'hôpital.
2 ans après le début de la pandémie, les services hospitaliers sont toujours sous tension, mais un début de baisse est déjà visible au sein des services de réanimation. C'est le cas notamment à Marseille, à l'hôpital de la Timone, Étienne Baudu.
Dans ce service, depuis le début de la pandémie, une partie des lits est réservée aux patients atteints de formes graves de la Covid. Mais preuve d'une certaine accalmie, sur les 16 lits de réanimation, 12 étaient occupés la semaine dernière par des patients Covid. Ils ne sont plus que 6, pour le plus grand soulagement du professeur Marc Guénier, le chef de service.
Il y a 3 semaines, dans ce service de réanimation qui était complètement plein, dès qu'un patient était susceptible de sortir, le lit était déjà occupé à l'avance. Et là, ce n'est plus le cas. Là. On a un box de libre qui est en attente d'admettre un patient, mais pour l'instant, on n'a pas de demande pour occuper ce box. Tout à fait, pourvu que ça dure.
Mais le professeur Guénier ne crie pas victoire. On n'est jamais à l'abri de surprises avec ce virus et ses variants, explique de son côté Julie. Elle est infirmière.
Il y a une petite accalmie, mais bon, jusqu'à quand elle va durer, on ne sait pas. Peut-être que c'est jusqu'à la fin de la semaine et ça repartira la semaine prochaine. Est-ce que c'est parti pour 15 jours ou un petit mois d'accalmie? Ça, l'avenir nous le dira. On le souhaite. Oui, oui, effectivement. Ça tire, oui, on est très épuisé.
Épuisé, mais la machine ne s'arrête pas pour autant de tourner. La PHM a rouvert des blocs opératoires pour reprendre des opérations qui avaient été déprogrammées.
À Marseille, le reportage d'Étienne Baudu pour RTL.
Dans le département du Tarn, des militaires appelés en renfort pour tenter de retrouver le corps de Delphine Jubilard.
Des moyens inédits sont déployés depuis hier près d'une ferme où Cédric Jubilard pourrait avoir enterré le corps de son épouse disparue en décembre 2020. Patrick Hisson.
Les militaires de la section des fouilles opérationnelles spécialisées ont ratissé hier un premier périmètre à proximité de cette ferme à l'aide de matériel utilisé notamment sur les théâtres de guerre. Ils ont sondé chaque mètre carré de terre afin de savoir si elle a été retournée dans l'hypothèse où encore aurait été enterrée. Ces fouilles se sont terminées hier vers 17h. Elles reprendront dès ce matin pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ces vérifications déclenchées après le témoignage d'un co-détenu à qui Cédric Jubilard aurait avoué avoir enterré Delphine à cet endroit sont accueillies avec beaucoup de réserves, non seulement par les avocats de Jubilard, qui ne jugent pas crédible cet accusateur, mais aussi par l'avocat de la cousine et des amis de Delphine, pour qui Cédric Jubilard est un provocateur qui se serait moqué des enquêteurs.
Les explications de Patrick qui sont pour RTL.
Une pause dans un instant, la contre-attaque d'Éric Zemmour après un jugement qu'il qualifie d'idéologique et de stupide. Merci d'écouter RTL, il est 7h06.
RTL Matin.
RTL 7h07, la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan. Éric Zemmour va donc faire appel après une nouvelle condamnation pour provocation à la haine.
Le tribunal correctionnel de Paris a infligé hier une amende de 10 000 euros au candidat à la présidence de la République pour ses propos sur CNews. Fin 2020, il avait qualifié les mineurs isolés étrangers de voleurs, de violeurs et d'assassins, Cindy Hubert.
Oui, dans le jugement que RTL a pu consulter, le tribunal estime qu'Éric Zemmour, sous couvert de désigner les mineurs isolés, opère un glissement jusqu'à viser la totalité des personnes immigrées. Réduire cette communauté à de simples délinquants, même potentiels, ne relève en rien de la liberté d'expression. Au-delà de l'injure raciste, les juges considèrent que ces propos conduisent nécessairement le spectateur à éprouver de la peur, de l'hostilité à l'égard des immigrés, que les termes utilisés sont de nature à justifier la haine et la violence. Surtout quand il décrit cette communauté comme un fléau, un danger au quotidien. Et la justice va même plus loin. Son discours, ce que dit Éric Zemmour, jouerait même le rôle d'un terreau déculpabilisant qui pourrait faciliter les passages à l'acte.
Cindy Hubert du service police-justice de RTL. À l'annonce du jugement, Éric Zemmour a dénoncé hier une justice politique. C'est une application smartphone qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers jours. La CNIL, le gendarme français des données personnelles, va vérifier si Élise respecte bien la législation et notamment la confidentialité. Cette application promet aux électeurs de départager les candidats à la présidentielle grâce à leur proposition avec un fonctionnement similaire à celui d'une application de rencontre. Emmanuel Macron était à Strasbourg hier pour rendre hommage à l'ancien président du Parlement européen décédé il y a une semaine. Les eurodéputés doivent élire aujourd'hui son successeur.
Alors la grande favorite, c'est une femme au profil surprenant et surtout particulièrement clivant.
Oui, il s'agit de la Maltaise Roberta Metsola, membre du PPE, le Parti conservateur. Elle a plutôt une bonne réputation au sein de l'hémicycle où elle siège depuis 2013. Mais alors, ses positions anti-avortement font polémique, Bénédicte Tassar.
Filmée dans sa cuisine, Roberta Metsola, 43 ans aujourd'hui, vend l'image d'une future présidente qui sait concilier, comme on dit, sa vie pro et sa vie personnelle.
C'est une bolognaise, mais avec pas mal de courges. Et je l'ai cuisinée hier, sinon je n'aurais pas eu le temps après le Parlement. Et là, c'est du poulet pour demain.
Roberta Metsola est déjà une très efficace vice-présidente du Parlement. Elle défend ardemment la liberté de la presse, les droits des LGBT+. Oui, mais la candidate de droite vient de Malte, le seul pays de l'Union qui interdit encore l'avortement, une position qu'elle assume. Alors, pour l'eurodéputée de la France Insoumise, Manon Aubry, l'élection de Metsola serait un comble.
40 ans après Simone Veil qui a légalisé l'avortement en France, qui a été présidente du Parlement européen, c'est un terrible retour en arrière et je crois que c'est une baffe qui est envoyée à l'ensemble des femmes qui se battent partout en Europe pour le droit à l'avortement.
Cette conviction anti-IVG sera le talon d'Achille de Metsola le temps de sa présidence pendant 2 ans et demi.
Le portrait de Roberta Metsola. Cela signé Bénédicte Tassard pour RTL.
7h10, le sport, le handball en particulier. Carton plein pour les Bleus dans l'Euro. Hein.
L'équipe de France a battu la Serbie hier soir 29 à 25 pour son dernier match de poule avant le tour principal. Un sans faute pour les Français qui signent leur 3e victoire d'affilée après la Croatie et l'Ukraine. L'entraîneur tricolore Guillaume Gilles.
L'essentiel à l'issue de cette rencontre est de pouvoir se projeter vers Budapest et ce tour principal avec le maximum de points. On est très bien rentré dans cette partie et on a pris ce match par le bon bout en mettant énormément de rythme dans cette rencontre, en mettant les Serbes en difficulté sur le grand espace. Et la défense a aussi été au diapason dans le rythme proposé, dans l'agressivité. Donc oui, une entame de match qui a été très, très satisfaisante. Et une deuxième mi-temps qui, avec le score, avec les rotations et un peu de légèreté dans tous les secteurs, nous donne un petit goût un peu amer sur cette fin de rencontre.
Guillaume Gilles, le coach des handballeurs français avec nos confrères de beIN Sport. Le prochain adversaire des Bleus sera connu ce soir. Ce sera soit la Hongrie, soit les Pays-Bas, soit l'Islande.
Bah, les courses, elles, ont lieu à Vincennes.
Et les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet, les voici. Il vous conseille de jouer le 11, le 6, le 15, le 2, le 5, le 12, le 8. Et la dernière minute, c'est le numéro 2, Gin Tonic Durand.
Gin Tonic. Enfin, écoutez, c'est pas la même chose. Donc, le plus étonnant dans Gin Tonic Durand, c'est Durand. Ah, ça, c'est...